There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Raquel Carena du Baratin.
La cuisine est devenue un lieu. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Et les lieux, c'est ici. C'est comme ça, quoi.
Pourquoi Raquel ? Parce qu'elle est tout à fait fascinante. Autodidacte, elle s'est mise à la cuisine par hasard et sur le tas, à force de pratiques, de lectures et d'expérimentations, et voilà maintenant 30 ans qu'elle fait des miracles dans sa cuisine de 4 mètres carrés. Avec Raquel, nous avons parlé de Belleville, de stress, de ratage et de thon de 90 kilos. Bonne écoute ! Bonjour Raquel !
Bonjour !
Alors entre toi et la cuisine, c'est une histoire d'amour, on va dire. En tout cas, c'est une histoire d'amour qui t'a mené à la cuisine, parce que c'est la rencontre avec un homme, Olivier Camus, avec qui tu as ouvert il y a 30 ans le Baratin. C'était un bar à vin quand vous avez commencé, et puis tu as commencé à faire un plat, deux plats, trois plats. C'est né comme ça ?
Oui, c'est né comme ça. C'est né comme ça. À l'époque, les bistrots à vin, ils avaient énormément de charcuteries et de fromages. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas assez et j'ai commencé à faire petit à petit un plat, deux plats. Et après, ça m'a plu et je suis là.
Donc, c'est deux histoires d'amour qui t'ont mené à la cuisine.
Je ne sais pas si c'est vraiment ça. C'est quand on se trouve dans une position différente de celle qu'on a l'habitude d'être, on est obligé de trouver une place et pour vivre, quoi. Et c'est ça qui m'est arrivé. J'ai pas commencé la cuisine. J'ai commencé à faire des plats parce que j'ai trouvé que c'était un peu bête de ne pas donner à manger aux gens quand ils venaient ici. Mais c'était pas prévu comme ça. J'avais pas ni décidé d'être cuisinière, ni de faire la cuisine. J'ai fait petit à petit, pour la force des choses, en me disant ça sera mieux, on sera mieux. Mais c'était pas quelque chose de décidé d'avance, quoi.
Et qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as commencé ?
Que c'était très compliqué et que je n'y arriverais jamais. Et petit à petit, je me suis habituée à ne pas arriver, à rater. Et je me suis dit, en ratant, peut-être je vais trouver quelque chose. Et j'ai fini pour trouver.
Est-ce qu'à un moment, tu es allée te former dans d'autres
non,
restaurants ?
Jamais, jamais. Il y a des gens qui sont venus chez moi et que j'ai appelés en demandant de l'aide, qui m'ont dit, tu ne sais absolument rien faire, il faut recommencer. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à faire. Mais non, j'ai jamais été ailleurs. Non.
Est-ce qu'il y a eu une rencontre je crois qu'il y a eu une rencontre déterminante aussi ici.
Oui, j'avais une femme que j'aimais beaucoup, qui était à l'époque, c'était des cuisinières différentes que maintenant. C'est-à-dire, c'est des cuisinières qui étaient passées dans beaucoup de maisons, mais avec aucun statut cuisinier. Et qui avait un mélange de cuisine très moderne à l'époque, qui était, il faut penser que ça fait 30 ans, les épices, tout ça, c'était pas du tout dans un bistrot avant, tu pouvais pas faire quelque chose qui ne correspondait pas à, maximum, c'était le vinaigre de vin rouge, si tu mettais déjà vinaigre de Jerez, c'était d'un exotisme fou. Les gens me disaient ici, je ne veux pas de la vinaigrette avec de l'huile d'olive.
Ça paraît fou aujourd'hui.
Pas. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Non, mais c'est vrai, je rigole pas. Hein. C'est qu'elle, elle avait beaucoup voyagé, c'était quelqu'un de plus âgé que moi, et elle avait fait trois restaurants, elle avait fait faillite dans trois restaurants. Et elle devait payer ses dettes, et je l'ai pris pour travailler avec moi, pour qu'elle puisse payer ses dettes. Et elle est restée longtemps avec moi, c'est elle qui m'a vraiment appris. Et dans une histoire un peu particulière, c'était une drôle de fille, c'était une Galicienne qui avait vécu très longtemps à Londres et qui avait travaillé beaucoup avec des Indiens à Londres, qui fait qu'il avait une espèce de mélange, un truc que les gens arrivaient, ils disaient, c'est quoi cette fille qui font, ils font des thons avec des cerises, c'est un truc, c'est quoi ça, des saumons aux fraises, c'est n'importe quoi. Et maintenant, c'est devenu à la mode, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire, et que j'aimais faire, quoi. J'aimais beaucoup travailler avec elle.
Et est-ce que tes parents, ils cuisinaient quand
non,
tu
pas du
étais
tout.
Petite?
Pas du tout, j'ai aucun souvenir d'enfance.
Ah oui?
Non, j'aimais beaucoup, mon père, il faisait beaucoup la braise, parce que je suis argentine, mais non, j'ai pas de souvenirs d'enfance. Ma grand-mère cuisinait, j'aimais bien, mais mon enfance, c'était des autres sensations, des parfums, beaucoup de parfums, des fleurs, mais pas de la cuisine.
Tu es arrivée de ton Argentine natale à 20 ans à Paris?
Non, je suis allée au Mexique avant.
Oui.
Du Mexique, je suis allée à Barcelone, de Barcelone à Milan et de Milan à Paris. Comme dernière destination avant de repartir en Argentine en 84, au moment de la démocratie. Et je suis tombée amoureuse, je suis restée. Je suis venue pour 2 mois et bon.
Et qu'est-ce
je
que
suis là?
Qu'est-ce que tu as fait avant de faire la cuisine?
Édition de livres.
Ah oui?
Oui, correction et édition de livres. C'est pour ça que j'étais morte en France. Je ne parlais pas français. Mmh. Et j'étais correctrice de style en espagnol. Et bon, c'est très mauvais quand tu ne parles pas une langue. Corriger les styles, c'était un peu foutu. Je me suis dit, les vieux, ça ne me dit rien. Les mômes, ça ne me dit rien. Il faut que je trouve quelque chose. On a trouvé ici.
Et au Mexique, en Italie, en c'est Espagne, tu faisais l'édition?
Oui, dans des missions d'édition. En Argentine aussi. Je suis partie à 19 ans, mais j'ai travaillé depuis que j'ai 16 ans dans une maison d'édition qui est très connue en Amérique latine. Et j'ai toujours fait l'édition, ouais. Sauf, je pensais aller retourner pour faire de l'édition en Argentine, comme d'habitude, mais non, je n'ai pas fait ça.
Et c'est en Italie que tu es tombée amoureuse et que
Non, pas en Italie, en arrivant en France, à 2 pas d'ici.
Et quel souvenir tu gardes des débuts du baratin?
Beaucoup de rencontres, beaucoup d'histoires. Le quartier était un quartier plein de gens qui habitaient dans la rue, mais qui étaient des clochards, des vrais clochards, qui travaillaient, qui allaient au marché des puces, vendre des choses, qui venaient voir l'apéro ici. Quand ils avaient fait un bon truc, ils venaient avec les crevettes et moi je mettais les vins blancs. C'était très compliqué, beaucoup de gens un peu perdus, qu'on récupérait, qu'on amenait à la maison, qui vivaient avec nous. Bon, mais c'était rien à voir avec maintenant, c'était très vivant, ouais. Très très vivant.
Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou plus faciles que d'autres?
Non, je m'étais découragée parce que j'avais aucune intention. Je me suis dit, si ça marche pas, je m'en fous, j'ai pas des idées ou il fallait faire quelque chose. Je vivais jour à jour, quoi, mais il n'y avait pas d'intention de faire ni des commerces, ni des affaires, ni des... Bon, c'était un truc comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais?
Oui, il y avait beaucoup de chefs que j'admirais, oui. C'est beaucoup.
Paul Bocuse?
Oui, Paul Bocuse, j'ai admiré comme personnage, mais j'étais très impressionnée par Chapelle. J'étais folle de Chapelle. Et j'étais très impressionnée pour Freddy Girardet. J'étais impressionnée pour Rollinger un peu plus tard, en 90, 91. Et non, il y a beaucoup de cuisiniers qui m'impressionnaient beaucoup, quoi. Oui, oui.
Et je parlais de Paul Bocuse parce que tu as beaucoup appris avec son livre.
Oui, non, en fait, comme j'avais une formation un peu littéraire, et comme je n'y comprenais absolument rien, je me suis dit, peut-être la bonne méthode, c'est faire comme quand on apprend des autres choses, c'est prendre le livre et refaire la recette. J'ai compris plus tard que c'était très compliqué, mais qu'en même temps, ça donnait une culture. Ça veut dire que ça donnait une idée de ce qu'il fallait faire, même si tu n'arrives pas à le faire. Qui est quand même un truc, pour moi, vachement important, que maintenant, on ne fait plus. Ça veut dire que maintenant, on fait, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'histoire de la cuisine. Moi, je pense qu'il faut la connaître pour faire la cuisine, pour moi. Mais bon, j'ai 60 ans. Hein. Les gens qui ont 25 ans, ils n'ont peut-être pas besoin. Mais pour moi, c'est il faut la connaître. Et j'ai beaucoup, quand tu lis les livres, tu comprends que si tu veux comprendre, tu comprends que c'est la cuisine bourgeoise. Tu comprends. C'est ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise française, tu comprends.
Tu as beaucoup quand même appris avec les livres.
Et j'ai beaucoup appris avec les livres à comprendre ce qu'il fallait faire, mais pas ce qu'il ne fallait pas faire. ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai appris avec les gens qui savent faire, quoi. Qui te montrent, qui te disent, tu ne sais pas faire ça, tu jettes à la poubelle et on recommence. Bah si, on recommence. Que maintenant, moi je trouve que c'est vachement compliqué. Il y a très peu de gens qui ont la patience de rester en cuisine longtemps. La cuisine, c'est beaucoup de temps.
Et à partir de quel moment tu as eu l'impression de basculer et de...
10 ans après, 95, 96.
Donc, c'était toi, ouais. Ton impression, c'était dans, ouais, le regard des autres.
Dans le regard des autres, c'était moi. J'avais plus d'assurance et j'avais perdu les côtés démonstratifs. On avait soin d'être reconnu. Ça veut dire qu'on a une espèce de truc qui va trop vite. On veut faire des choses qu'on ne sait pas faire. Non, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut... Rolanger, il m'avait dit la première fois qu'il est venu, il était assis juste où il est assis de cette fille, qui m'a dit, Raquel, pas mal, mais bah si, nettoie quoi, nettoie. Maintenant, il n'y a plus un cuisinier qui te dit ça. Parce que Rolanger, il a mon âge, il est même un peu plus jeune, 2 ans de plus vieux que moi. Et il m'a dit, nettoie. Il y a beaucoup qui ne servent à rien dans l'assiette. Bah si, j'en étais malade. Et en fait, il avait raison. Il avait raison, il m'a dit, fais comme tu veux faire. T'as fou que les autres disent qu'il faut faire, je crois, tu fais comme tu veux faire. À l'époque, les cuisiniers osaient dire des trucs. Maintenant, c'est très compliqué. Parce qu'on devient star trop, trop vite. Et malheureusement, dans la cuisine, il y a une espèce de maturité qui est obligatoire. Ça veut dire avoir beaucoup goûté, et beaucoup écouté.
Beaucoup pratiqué.
Beaucoup pratiqué et beaucoup raté. Beaucoup raté.
Ouais. Tu es devenue... Enfin, on t'appelle, je veux dire, la chef des chefs, parce qu'il y a plein d'autres confrères qui aiment bien venir manger chez toi. Donc, Rollinger, dont tu parlais, Pierre Hermé, Iñaki Espitart, Yves Candebord. Comment c'est arrivé ? Est-ce qu'il y en a un qui est venu et les autres ont suivi ? Ou comment ça...
C'est ça qui est arrivé, ouais.
Oui ?
Ouais.
C'était qui le premier ?
Pierre. Pierre qui est venu... Tout à fait par hasard, parce que j'avais un copain que j'ai adoré, 2 copains, qui avaient un restaurant juste à côté du parc, qui s'appelait La Courtille, et ils venaient de faire faillite. Et Pierre, il allait souvent là-bas. C'est un grand spécialiste de vin. Pompon, il a dit à Pierre, écoute, si tu veux, on y va chez Raquel, comme ça tu regarderas, tu verras si ça te plaît. Il a commencé à venir, il était pâtissier chez Fauchon à l'époque. On ne connaissait pas son nom. C'était le pâtissier Fauchon, il venait faire la série sous les gâteaux et tout ça. Et on est devenus un peu copains, et il a pris beaucoup de fidélité avec cet endroit, et il vient toujours, et c'est une belle histoire.
Et comment, quel effet ça t'a fait, quand les grands chefs ont commencé à venir
C'est compliqué, parce que j'ai été très impressionnée pour Rollinger, mais Rollinger était très simple. C'était un cuisinier avec lequel tu pouvais parler. Et j'ai pas. Après, Iñaki, quand j'ai connu, il faisait pas de la cuisine. Ça veut dire qu'il était pas cuisinier. Après, Candebord, je l'ai connu à l'époque, il était très, très, très connu. Mais il avait quelque chose avec les filles qu'il avait pas avec les garçons, qui fait que ça marchait tout de suite. Et après, je sais pas, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi. C'était des rencontres, ouais.
C'est une reconnaissance quand même d'avoir des chefs qui viennent et qui continuent.
C'est beaucoup les gens et les journalistes qui parlent de ça. Moi je ne sais pas. J'étais toi, très contente de donner à manger aux cuisiniers. Quoi. Ça, c'est vrai que quand tu es cuisinier, c'est pas mal. Faire un peu pour les cuisiniers, c'est rigolo. Mais bon, parce qu'il faut faire un peu différent, il faut faire, c'est rigolo.
Quand même, quand il y a des chefs...
Il n'a jamais mangé un dessert chez moi. Il est interdit de dessert. Il ne mange jamais un dessert chez moi, sauf si c'est lui qui l'amène. Sinon, il ne mange jamais un dessert chez moi. C'est vrai, en plus. Il m'a écrit des fromages.
C'est toi, tu refuses. Tu refuses de lui donner les desserts.
Moi, jamais. Whisky et fromage.
Et donc, tu as changé de mari, mais tu es restée au bar à temps.
Ouais. J'ai changé des garçons, mais je suis restée au bar à temps.
Et tu n'as pas eu la tentation de changer d'endroit ?
En période, oui. En période, je voulais... Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, non, peut-être les baratons, c'est une histoire liée à une rencontre. Et en fait, après, je me suis dit, non, j'ai jamais pu partir.
C'est toi, maintenant ?
Oui, mais je n'ai jamais pu non plus ouvrir un autre endroit. C'était pas du tout dans mon style. J'ai pas du tout... Moi, je suis là, quoi. Quand je ne suis pas là, c'est fermé, c'est... Il y a beaucoup dans lesquels ils ne sont pas d'accord avec moi, mais on...
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi?
C'est faire tous les jours, quoi. Nourrir les gens, quoi. Faire manger, quoi. Faire manger, les stress de la cuisine, j'adore. Je ne comprends pas les chefs qui disent que le stress, c'est angoissant. S'il n'y a pas de stress, pour moi, c'est rien. C'est rigolo. Ça bouge, il faut que ça bouge. Putain, allez, on y va, quoi. C'est ça, les cuisines. Pour moi, hein, mais bon.
Et qu'est-ce qui guide ton envie de faire la cuisine?
C'est toujours des clins d'œil sur... Maintenant, en vieillissant, il y a beaucoup de recettes qu'on répète. De temps en temps, on a une nouvelle. De temps en temps, on prend la folie, on prend d'autres livres. Et on essaye des trucs. On fait un peu... Ça dépend. Mais je n'ai pas du tout perdu la vie. J'ai trouvé ça amusant et je travaille avec une très bonne équipe.
Tu continues à essayer?
Ah, si. Ouais. Des fois, on fait des ratages, mais complets.
Encore?
Si, on peut faire des trucs costauds, quoi. On appelle Pierre, putain, la pâte feuilletée, ça couche comme j'ai fait, mais non, ça couche pas. Il fait... Bon, non, mais si, on s'amuse. Mais... Si.
Est-ce que tu fais une cuisine de cœur ou de la tête? Pour toi, hein, pas pour les autres.
Enfin, je ne sais pas ce que c'est le cœur ou la tête. Pour moi, ça va ensemble. Je ne pourrais pas dire s'il y a une différence entre le cœur et la tête. Et j'ai fait une cuisine que j'aime manger.
J'allais te demander, justement.
Ce que j'aime manger, c'est sincèrement ce que j'ai fait. Et quand je rate, je sais que j'ai vraiment raté. Et ça m'arrive souvent. Et quand les gens me critiquent, je suis très contente. Parce qu'ici, il y a un truc dans ce restaurant où les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils mangent. S'ils sont de bonnes intentions, moi j'en suis absolument ravie. Je déteste aller dans des endroits où il faut dire ah oui, ça a été. Et les gens te demandent 10 fois si ça a été. Mais attends, ça va quoi, c'est pas... Il faut parler. Ça fait partie des trucs, c'est pas... Et il faut être là. Un cuisinier, il doit être un cuisinier. Pour moi, c'est primordial.
Et tu disais que tu faisais des choses que tu aimes manger, mais aussi que les envies... Enfin... Pas les invités, mais tes clients aiment manger parce que tu regardes aussi le cahier.
Ah oui, ça, je regarde. Oui.
Tu aimes leur faire plaisir?
Oui, je connais certains clients et s'ils sont là, je veux faire quelque chose pour eux, quoi. Ça, c'est sûr, ouais.
Est-ce que trouver ton style, ça a été facile? Enfin,
je sais pas si j'ai un style. Je sais pas. C'est une cuisine très simple. Mais qui a un sacré caractère de montagne, ça veut dire qu'il faut. Il y a beaucoup de. Comment vous dire, pour que vous en compreniez ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'observations sur un produit. Ça veut dire qu'un produit, on le travaille depuis 30 ans. Par exemple, le riz de veau. Je travaille le riz de veau depuis 30 ans. Tu as une semaine où le riz de veau arrive, impeccable, tout gonflé, magnifique. Tu sais la manière que tu vas le faire. Et 2 semaines après, il arrive, moi magnifique, ouvert, tu l'envoies, tu peux l'envoyer. Tu peux avoir la même chose pendant 2 ou 3 semaines. Il faut savoir qu'il n'y a pas une formule. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être là. Il n'y en a pas de formule. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'un restaurant, ça ne peut pas être toujours bon. C'est absolument impossible. Surtout si on travaille de vivant, quoi. Parce que maintenant, on parle des produits. Pour moi, à partir du moment où on a commencé à parler des produits, on n'a plus parlé de cuisine. Parce que les produits, c'était évident qu'avant, il y avait des produits, mais personne n'avait besoin de parler des produits. Maintenant, on parle des produits, mais on ne parle plus de cuisine. Il faut qu'on fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Et je ne sais pas. J'ai perdu un peu les fils. Je ne sais pas de quoi je voulais parler.
Je parlais de ton style. Et...
Je ne sais pas si j'ai un style. Je sais seulement que j'ai... Je demande à les gens qui travaillent avec moi et à moi-même d'observer toujours. C'est-à-dire que des fois, je me dis, on parle d'un produit qui a 3 degrés dans une chambre froide, sur une poêle, et il faut le faire croustiller. Non, on décide, vous m'avoir, on fait sous vide, n'importe quelle matière sous vide. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Et tu n'es pas dans la répétition machinale
Non, parce que des fois, c'est compliqué. Tu te dis, oh là 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 là, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est cette semaine, ça ne va pas. Tu laisses et après, tu réfléchis. Tu dis, non, si c'est comme ça, peut-être j'ai des peu fort comme ça. C'est un peu compliqué. Je pense aussi que l'absence de feu, ça a donné à la cuisine quelque chose qui est assez particulier et qui uniforme énormément les imperfections. Ça veut dire... Et quand il y a un poisson qui ne va pas trop, tout le monde, maintenant, il sale les poissons. on sale les poissons, on les met à saler, parce que ça va donner une certaine transparence, translucide. Mais non, ça va pas. On salait les poissons quand on n'avait pas de frigo, quoi. On sale pas les poissons si les poissons sont bons, quoi. Je suis d'accord, c'est vachement bien, ça reste toujours pareil. On fait toujours à la plancha, ça reste pareil. Mais non, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. De temps en temps, les turbos, il n'y a plus de gélatine, de temps en temps, il y en a moins. C'est comme ça, ça fait...
On accepte moins les défauts de la matière.
C'est compliqué. Ça, on est quand même dans des discussions un peu... Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu la tentation d'aller chercher dans tes racines?
Bien sûr. Je suis allée très souvent en Argentine parce que je ne viens pas de Buenos Aires. Je viens d'une province qui s'appelle Córdoba, où il y a des très très bonnes cuisines de casseroles. Et je l'ai fait assez souvent. Et quand je vais en Argentine, parce qu'il y a deux ou trois produits qu'on ne trouve pas ici... Mais oui, ça m'a beaucoup intéressé. Et la cuisine mexicaine aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Après, trouver des produits, tout ça, mais ça m'a beaucoup intéressé. Si. Je ne connaissais rien avant. Et oui, ça m'intéresse, ouais.
Mais pas au point d'influencer plus que ça ta cuisine.
Non, je pense que j'ai une influence méditerranéenne parce que je vais depuis 30 ans en Espagne. Et j'aime beaucoup les produits du soleil, mais non, je sais pas, maintenant je vais pas changer, maintenant je suis presque à la fin, hein. Quoi, c'est à changer maintenant.
Donc j'ai lu une interview de Yves Candebort qui disait qu'il vient chez toi pour ressentir le vrai Paris. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire?
Ça, je ne sais rien. Moi, je pense que je suis bellevilloise. Mais le vrai Paris, je ne sais pas si c'est Belleville, le vrai Paris, c'est possible, mais je me sens bellevilloise, ça c'est sûr.
Est-ce que tu as l'impression d'être le vrai Paris ici?
Je ne sais pas.
D'incarner ça?
J'ai aucune prétention, mais c'est vrai que j'ai choisi ces quartiers, et ces quartiers m'ont choisi, et c'est une vraie décision. Je n'irai pas dans un autre quartier à Paris, ça c'est absolument certain. Ça, c'est certain. Mais après, le vrai Paris, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais...
Il disait aussi que quand il vient, il sait ce qu'il va manger. Parce qu'il y a plein de choses qui ne changent pas. Et en même temps, que c'est ce qu'il manque dans les restos parisiens aujourd'hui. Des références. T'en penses quoi?
C'est rigolo de changer, de chercher. Moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je reproche. C'est qu'il lâche très, très souvent les temps d'être en cuisine. Pour avoir des temps pour faire de la communication. C'est là ces jours que je reproche. Mais à part ça, de la cuisine, je n'ai rien à dire. Si on a envie de changer, de ne pas faire classique, pourquoi pas. Moi, ce que je reproche, c'est cette envie de communiquer, quoi. Je pense que la cuisine, c'est le contraire de la communication. Parce qu'il ne faut pas bouger de place. On voyage sur place.
Est-ce que tu crées facilement de nouveaux plats?
Non. J'ai des influences des fois, je prends un truc, je change un peu. Non.
Qu'est-ce qui t'inspire dans la cuisine?
La gélatine, les plats, les ingrédients où il y a beaucoup de gélatine. Et dernièrement, je travaille beaucoup les trucs de morue, des jours qui n'existent pas en France. Et des plats mélangés avec... des plats de terroir mélangés avec la mer. Et c'est mes nouvelles influences, quoi, les trucs qui m'intéressent maintenant. Et beaucoup, beaucoup garder les côtés collagènes qu'ont les aliments. Ça, j'aime bien. Et c'est ce qui, en ce moment, m'intéresse le plus, quoi.
Et en dehors, est-ce qu'il y a des choses en dehors de la cuisine, de l'univers de la cuisine qui t'inspire pour créer des plats, ou tu vas voir quelque chose dans la rue et tu vas dire, ah tiens...
C'est beaucoup dans les marchés. J'ai fait tous les marchés où je vais.
Tu vas où?
Et où je vais en Espagne, j'ai fait tous les marchés. Ah, oui. En Italie, j'ai fait les marchés. Et ça, j'ai trouvé des produits, j'ai fait venir. Et ça m'influence un peu. Et j'aime beaucoup travailler les thons. On est quand même... là, par contre, j'ai la prétention de le dire. On est quand même les seuls bistrots qui travaillent des thons entiers, qu'on passe 90 kilos. On fait des thons de 90 kilos. Nous, on prend 5 ou 6 par an. Et là, on fait beaucoup de recettes avec la peau de thon.
Ah oui.
Et qui ressemble à des tripes, qui est complètement translucide. Et pour ça, c'est les Espagnols qui m'ont appris, Roca et compagnie. Et c'est rigolo.
Ça doit être énorme.
C'est deux.
Comme ça, comment? 90 kilos.
Trois tables et demie. Ouais, trois tables et demie, comme ça. C'est Jérôme qui l'a fait. Il a travaillé avec quelqu'un japonais pendant longtemps et il sait super bien les ouvrir. Et on prend, mais on commence à prendre en juin.
Ah oui,
là, il y avait les premiers, là, on n'a pas pris encore. Sinon, on prend. Et ça, jamais personne n'a dit ça dans la presse. C'est rigolo, hein. Ils ne veulent pas qu'on fasse du thon. Tripe, que des meufs, c'est bien, mais thon, non.
Énorme. Est-ce qu'il y a un plat dont tu es particulièrement fière?
Oui, la cervelle, quoi. Tripe, ragoût de poisson, beaucoup de ragoût de poisson avec des coquillages. Oui, je sais pas. Ouais, j'aime pas beaucoup la cuisine d'assemblage, moi. J'aime pas un produit. J'aime bien que tout soit ensemble. C'est pas très joli, des fois. Des fois, c'est moins joli, c'est moins vif, c'est moins. Mais en bouche, je trouve que ça fonctionne mieux. Mais ça, après c'est des manières. Hein.
Alors, on va faire une petite pause. Interview dans l'interview avec des questions super faciles.
Ouais.
Et pour se détendre, quel est ton âge? Ton âge?
Ah, 59 ans.
Ton signe astrologique?
Poisson.
Ton plat signature?
Gratin de tripes aux aubergines.
Ton plat préféré à manger?
Ah, le poulet rôti.
Le chef que tu admires le plus?
Je pense qu'à ces moments, c'est la roca, mais...
Ton ingrédient préféré?
L'oignon.
Et détesté?
Les choux-fleurs. J'adore les choux-fleurs.
Donc on peut pas en manger au baratin. Ton ustensile préféré?
Les fouets.
Ton dernier meilleur repas?
Dans un restaurant à côté de Santander, dans des Asturies, un endroit qui s'appelle Gueugemar. Extraordinaire. Un monsieur tout seul avec la braise, que des poissons incroyables. C'est dans un village qui s'appelle Riva da Seja.
Je vais chercher l'adresse.
Génial. Au milieu de la mer, magnifique. Magnifique. Pas très connu pour le moment, mais pour les Espagnols, oui.
Pas
mais
encore.
Pour les Français, pas beaucoup.
Encore.
C'est pas mal.
Le resto que tu aurais aimé ouvrir?
Les marathons, quoi.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Je ne sais rien. Le meilleur compliment,
Tu sais pas. Et la pire critique?
Ah, et la plus critique que je n'oublierai jamais, c'est un cuisinier, je ne donnerai pas son nom. C'était la première fois, c'était les premières années où on faisait des bouillons très clairs. Ça veut dire aucune extraction dans les poissons pour des bouillons complètement translucides. C'était mon maître, c'était Roulanger, et j'ai trouvé que c'était génial. Tu avais l'impression que tu avais de l'eau, et quand il avait en bouche, il y avait un développement énorme. Et j'avais fait la même chose. Évidemment, j'avais marqué bouillon de poisson. Et le chef arrive, il mange, il me dit, mais quand même, voilà, c'est de la flotte, quoi. J'ai dit, ah bon, mais tu n'as pas senti, il y a quand même des crustacés. Et ça m'avait beaucoup énervé, quoi. Mais c'était une autre époque. Mais non, on ne se permettra pas de dire ça. Tu vois, il y avait citronnelle, tout ça. Mais bon, ça m'avait beaucoup énervé.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Non, jamais. Non, ça, je ne peux pas répondre ça. Je ne sais rien.
Tu te sens pas chef?
Non.
Tu te sens quoi?
Non, je suis incapable de diriger les gens. Non. Moi, on fait avec moi, on fait ensemble, mais non, chef, non.
Vous êtes combien dans la cuisine?
Et toi?
C'est comment l'ambiance dans tes cuisines?
Ah ça, il faut demander à mon personnel, pas à moi quand même. Je ne sais rien.
Mais toi, t'as envie
de... Moi, je trouve que c'est vachement bien, mais je ne sais rien. En tout cas, ils ne parlent pas en courant, quoi. Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, mais...
C'est positif, alors.
Ouais.
C'est plutôt sympa, c'est collaboratif.
Oui.
Est-ce que c'est important, bah, tu disais, c'est important de toucher les casseroles tous les jours?
Si, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité, il faut même les laver. Genre que beaucoup de chefs, on oublie. Ah, ça, c'est certain.
Est-ce que ton humeur influe sur ta cuisine?
Énormément.
Est-ce que tu as besoin de bonne humeur pour,
si.
C'est mieux?
Si, mais c'est quand meilleur. Je cuisine, ça me met de bonne humeur. Si je suis un peu angoissée, je dis, bon, on fait trois, quatre trucs différents, bah, si, on y va. Et c'est mieux.
Et c'est mieux?
Ouais, c'est mieux.
Est-ce que c'est meilleur quand tu es de bonne humeur?
Ah, ça, je ne sais rien. Ça, il faut demander au client. Mais pour moi, c'est mieux, quoi, ouais.
Est-ce que tu te sens... J'allais te demander si tu te sentais plus chef, cuisinière, restauratrice. Pas
rien.
Chef, donc.
Non, mais je dirige pas, quoi. C'est chacun, petit à petit, comme ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, il y a chacun, tu vois, chacun il est fort pour quelque chose. celle qu'il faut, il fait ça, l'autre il dit qu'il faut, il fait ça. Moi, il y a beaucoup de jours que je suis vraiment pas forte, qui fait que c'est eux qui font, et moi j'ai fait la dernière jette. Je sais pas, c'est pas, non, je sais pas.
Ça te dérange pas qu'on t'appelle cuisinière ?
Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout.
Est-ce que t'as déjà... Après, comme t'as pas travaillé ailleurs, t'as peut-être jamais ressenti, mais le fait d'être une femme et d'être chef,
non,
est-ce qu'il y a déjà eu des...
Non, jamais. Je sais pas que c'est...
Dans le regard des clients ou dans...
Ah non, non, jamais, jamais. Il y a des trucs drôles, mais pas des trucs... Non, jamais.
Ou dans, le... dans les gens qui viennent travailler avec toi, il y a toujours eu de la bienveillance et...
Ah non, non, jamais, ouais. Non, non.
Est-ce que tu as l'impression que la cuisine est un univers difficile ?
Non, je pense que c'est un univers plein de trucs, très, très animé. Si, difficile, parce que c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Difficile, je sais pas. Je sais pas. Je pense que tous les métiers sont des côtés encombrants, quoi.
Est-ce que le métier a changé depuis que tu as commencé ?
Oui, énormément.
En bien, en...
Différent. Je ne dirais pas que c'est bien ou mieux, mais différent. Différent.
Tu as l'impression justement qu'il y a moins de cuisine ?
J'ai l'impression qu'il y aura moins, non, qu'il y aura moins de transmission.
Ah oui ?
C'est-à-dire que j'ai 60 ans, je ne serai pas là pour le voir, mais je pense qu'il y aura moins de transmission.
Tu as formé beaucoup de chefs dans ta cuisine ?
Non, je n'ai pas formé. J'ai donné envie de faire la cuisine à des gens qui n'étaient pas cuisiniers et qui sont faits des endroits.
Qui, par exemple ? L'Arsouille ?
Oui, l'Arsouille.
Un petit peu.
Oui, pas mal. L'Arsouille, Nina, à Munich, elle a fait un endroit qu'elle appelait Métro Belleville. Maintenant, deux filles qui sont... Une fille qui est du côté de Caussac, maintenant elle est à Tabel, avec une autre fille... qui sont appelés l'endroit La Courtille, un hommage. Et non, si, il y a quand même du monde, quoi.
En 30 ans.
Ouais. Anthony Cointre, vous savez, qui vendait des stylos quand je l'ai connu, quand même. Bon.
Est-ce que c'est pratique de travailler avec son conjoint ?
Ah, ça, je ne peux pas dire. Pour moi, c'est génial. Tout le monde dit que non, mais moi, je trouve ça génial. Mais bon, je ne sais rien, ça, je ne peux pas dire. Et quand tu es dans un univers comme ça, tu ne travailles pas vraiment ensemble. Les gens pensent qu'il va que tu es dans les mêmes lieux, travailler ensemble. Si tu as des activités très différentes, c'est pas tout à fait travailler ensemble. C'est un truc un peu particulier. Si tu es d'accord avec les principes de comment tu travailles, après, évidemment, c'est la différence. Mais si tu es d'accord de comment il faut travailler, ça passe super bien. La meilleure manière de s'entendre, c'est travailler avec son conjoint. Quoi. Pour moi, mais bon, tout le monde me dit qu'il est folle.
Vous échangez ou vous avez chacun votre domaine et vous ne marchez pas sur les pieds ?
On échange ensemble. Il me critique énormément. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mais énormément, il va venir nous emmerder en cuisine à dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça. Mais c'est bien, ça nous fait... Mais lui s'occupe du vin, nous on s'occupe de la cuisine, mais il fait beaucoup les courses et il connaît ce qu'on fait. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien partager. Tout seul, je ne l'ai jamais fait. Ça, jamais, la vie.
Toi, tu interviens sur les vins, sur son domaine ?
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression de faire une cuisine féminine, masculine, genrée ?
Ça, je ne sais rien.
Il y a des gens
les sexes
qui...
sous la cuisine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des cuisines démonstratives et qu'on, entre guillemets, on a tendance à appeler cuisine masculine. Et c'est très souvent les femmes qui les font, pour moi. Ça veut dire que quand on parle de cuisine féminine et masculine, j'ai un peu de mal. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Puisqu'il y a des...
En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où la cuisine est très démonstrative, que normalement, on pourrait penser que c'est quelque chose de masculin. Et ce n'est pas tout à fait des garçons qui sont en cuisine, quoi.
Est-ce que c'est parce que les gens parlent d'une cuisine... Une cuisine émotionnelle ou d'amour, de...
Oui, des mères,
en fait. De mères, donc c'est tout de suite rapporté à quelque chose de
féminin. Oui, j'ai pas
fait
d'enfant,
ouais. Mais en même temps, c'est pas ça, enfin...
Non, je pense pas qu'il soit... Non, je sais pas, je peux pas... J'ai pas d'idée sur ça.
Il y en a peut-être pas.
Non, j'ai pas d'idée.
Est-ce que c'est dur, le jugement des clients ?
Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, aussi. Il faut apprendre un peu, mais c'est dur. Ouais.
Toujours aussi dur
Ah oui, des fois, c'est compliqué, oui.
tu acceptes la critique,
Ah oui, oui, j'accepte énormément la critique. C'est, des fois, c'est des trucs un peu malveillants et on les voit très vite. Et des fois, c'est des trucs où les gens, ils ont vraiment raison, quoi. T'as déconné, oui, c'est sûr.
Mais c'est pas facile, tu t'exposes en fait à chaque assiette un peu.
Ah mais oui, mais c'est comme ça, hein, c'est obligé.
Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui?
Les garçons, toujours les garçons, non c'est pas vrai. Je ne sais rien. Je sais pas. Non, j'ai dit des bêtises. Je sais pas.
Des nouvelles recettes, des...
Non, j'arrive, je ne sais rien. Il n'y en a pas un jour qui me fait courir. Non.
Tu sors pas assez peu de ton restaurant? Est-ce que ça t'intéresse pas? Est-ce qu'on...
Je sors... Non, je vais manger ailleurs, c'est sûr.
Non, je veux dire, quand je veux dire sors peu, tu fais peu d'événements à côté.
Ah, je fais jamais d'événements, non. Non, ça c'est pas
ça
pour moi.
Ça t'intéresse pas?
Non.
T'as eu des demandes?
Oui, mais non, c'est pas pour moi, non. Non. Non, je n'ai pas...
Tu veux pas délaisser tes cuisines?
Non, c'est pas ça, c'est parce que la cuisine est tenue en lieu. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Et les lieux, c'est ici, c'est comme ça, quoi.
Tu penses que ça n'aurait pas de sens de faire ta cuisine dans un autre...
Je me sentirais pas à l'aise et en plus c'est bidon, quoi. Pour moi, ça, c'est la bidon. Mais peut-être pour les autres gens, c'est pas bidon, hein, mais pour moi, c'est bidon. Je sais ce que je veux faire et je l'ai fait
ici.
Avec la plus grande droiteté. En dehors de ça, après, ce qu'ils font les autres, ça me gêne pas, mais moi, c'est pas pour moi. Je serais bien allée une fois au Japon. Et
pour cuisiner?
Mais ils m'ont toujours invité pour pas cuisiner. Ça, c'est ma mère, je suis toujours dit non. J'aimerais bien aller.
Le seul endroit.
J'aimerais bien voir le Japon une fois. Mais bon, et je ne veux pas y aller si je ne vais pas pour cuisiner. Je ne vais pas aller en touriste.
Pour cuisiner du thon?
Ah oui, je n'ai pas envie.
Depuis 30 ans, le baratin ne passe pas de mode. Comment fais-tu pour durer?
Ça, je n'y sais rien. Pour moi, on est passé des modes complets. Mais si vous le dites, je vous crois. Mais pour moi...
Bah, je viens vous voir.
Oui, non, mais c'est compliqué. Quoi. C'est vrai qu'on l'a aidé dès que les nouveaux cuisiniers viennent ici. Ça fait un peu tenir l'endroit vivant. Mais ça, c'est nous qu'on a voulu. C'est beaucoup Philippe, plus que moi. C'est parce que Philippe, il adore... discuter, faire, il faut faire des choses avec des gens. Allez, on fait ça. On a fait énormément des salons de vin. Mm-hmm. Maintenant, c'est devenu quelque chose de connu, mais à l'époque, c'était plus rare. Et c'est vrai que ça fait des liens, quoi. Et ça fait qu'on est resté un peu dans la mouvance. Là, c'est un peu la queue des comètes qui s'en va un peu. On verra bien. Mais là, bien, je sais pas.
T'as pas de secret?
J'ai pas.
C'est la fin et on commence à avoir faim. Est-ce que tu aurais une recette toute simple que l'on peut faire à la maison à nous expliquer?
On prend des sardines, on les enlève, on fait des filets, mais on les enlève accrochés comme si c'était des papillons. On appelle ça des papillons quand c'est des deux filets accrochés. Et après, on fait une farce qu'on peut faire au mortier ou à robocoupe. On coupe de l'ail, des citrons, de la coriandre, cumin, huile d'olive. Et on farcit avec ces farces un petit peu épaisses. On farcit les sardines, on les passe dans la farine et on les fait frire.
Merci Raquel.
De rien.
Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle au Baratin, 3 rue Jouy-Rouve, à Paris 20e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.